Durant les longues journées qui suivirent, je m'accrochai à cette pensée comme à une planche de salut. Et elle m'aida un peu. Car lorsqu'il me défiait furieusement du regard, sa volonté tout entière tendue contre moi, je pouvais l'invoquer et respirer un peu. Bien que j'aie vécu 1000 ans, ils ne me parurent pas aussi longs que l'enfance de Télégonos. Si j'avais prié pour qu'il parle tôt, je l'ai regretté aussitôt, car cela ne faisait que donner la parole à ses colères.
« Non, non, non !»
criait-il en me repoussant violemment. Et ensuite, un peu plus tard, il grimpait sur mes genoux, en criant
« Mère !»
jusqu'à m'en faire mal aux oreilles. « Je suis là, le rassurai-je, juste là. » Ce n'était jamais assez près. J'avais beau marcher avec lui toute la journée, jouer à tous les jeux auxquels il me demandait de participer, si mon attention faiblissait même un court instant, il se mettait à tempêter et à hurler en s'accrochant à moi. Dans ces moments-là, j'avais envie d'avoir mes nymphes à mes côtés, ou n'importe qui que j'aurais pu prendre par le bras en lui demandant « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» Mais l'instant d'après, j'étais ravie que personne ne puisse voir ce que je lui avais fait en laissant ma terreur des premiers mois lui monter à la tête. Pas étonnant qu'il tempête constamment. « Viens, le cajolai-je. Et si on faisait quelque chose d'amusant? Je vais te montrer ma magie. Et si je transformais cette baie pour toi? » Mais il la jetait au loin et courait retrouver la mer. Toutes les nuits, quand il dormait, je me postais au-dessus de son lit en me disant « Demain, je ferai mieux. » Parfois, c'était même vrai. Parfois, nous descendions à la plage à toute allure en riant, et il s'asseyait sur mes genoux, tout contre moi, pendant que nous admirions les vagues. Il donnait toujours des coups de pied, pinçait toujours sans relâche la peau de mes bras. Cependant, sa joue restait appuyée sur mon torse, et je sentais sa poitrine se gonfler et s'abaisser au rythme de sa respiration. Je débordais de patience. « Crie tant que tu veux, pensais-je, je peux le supporter. » C'était de la volonté qu'il me fallait, de la volonté à tout moment. Un peu comme un sort en fin de compte, mais un sort que l'on doit se jeter à soi-même. Il était pareil à une grande rivière en crue, et je devais toujours avoir des canaux prêts à juguler son flux torrentiel. Je me mis à lui raconter des histoires, des choses simples, comme un lapin qui cherche de la nourriture et finit par en trouver, ou un bébé qui attend et dont la mère arrive. Comme il en réclamait plus, je continuais. J'espérais que ces récits bénins apaiseraient son âme tourmentée, et c'était peut-être le cas. Un jour, je m'aperçus que la lune était venue et repartie sans qu'il ne se roule par terre. Une autre lune passa, et quelque part durant ces mois-là, ce fut la dernière fois qu'il cria. J'aimerais me souvenir du moment exact. Non, j'aimerais plutôt avoir su quand ce moment viendrait. J'aurais ainsi eu une perspective à contempler durant toutes ces journées sans espoir. Il mentionnait des feuilles, des pensées et des mots apparemment sortis de nulle part. Il avait 6 ans. Son front s'était éclairé et il m'observait tandis que je travaillais dans mon jardin, aux prises avec une racine récalcitrante.
« Mère ?»
me conseilla-t-il en posant sa main sur mon épaule.
« Essaie de la trancher ici. »
Il sortit le petit couteau qu'il portait depuis peu sur lui et la racine céda.
« Tu vois ?»
poursuivit-il d'un ton grave.
« C'est facile. »
Il aimait toujours autant la mer, connaissait chaque coquillage, chaque poisson, fabriquait des radeaux avec des rondins pour les faire flotter dans la baie. Il faisait des bulles en soufflant dans les piscines laissées par la marée, examinant les crabes qui s'y agitaient.
« Regarde celui-là » disait-il en me tirant par la main. « Je n'en ai jamais vu d'aussi gros ni d'aussi petit. Celui-ci est le plus brillant, celui-là le plus noir. Ce crabe-là a perdu une pince et la seconde est en train de grossir pour la remplacer. C'est malin, non ?»
Une fois encore, je me pris à souhaiter qu'il y ait quelqu'un d'autre sur l'île. Pas pour me plaindre, mais pour le chérir avec moi. Je lui dirais « Tu te rends compte? Nous avons lutté contre vents et marées. Je n'ai pas été à la hauteur, et c'est quand même une adorable merveille de la nature. » Il fit la moue en remarquant mes paupières humides.
« Mère, ce crabe s'en sortira. Je te l'ai dit, sa pince repousse déjà. Maintenant, viens voir celui-là. Il a des taches à la place des yeux. Tu crois qu'il voit à travers ?
Le soir, il ne voulait plus de mes histoires. Il inventait les siennes. Je crois que c'est là qu'était passée sa sauvagerie, car elles étaient toutes remplies de créatures bizarres. Griffons, léviathans et chimères qui venaient lui manger dans la main et qui l'entraînaient dans des aventures où il les domptait grâce à d'habiles stratagèmes. Peut-être que n'importe quel enfant n'ayant d'autre compagnie que sa mère se serait montré aussi imaginatif. Je ne saurais le dire, mais il paraissait si captivé quand il décrivait ses visions. Il paraissait vieillir chaque jour, 8 ans, puis 10, puis 12. Son regard devint sérieux, ses membres longs et robustes. Il avait l'habitude de tapoter la table d'un doigt en faisant la morale comme un vieil homme. Ses histoires préférées parlaient de courage et de vertu récompensée.
Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais, qu'on doit toujours, c'est pour ça qu'on doit s'assurer de...
J'aimais sa certitude, son monde, un endroit facile où les bonnes actions étaient sévèrement séparées des mauvaises, où les erreurs avaient des conséquences, où les monstres étaient vaincus. Ce n'était pas le monde que je connaissais, mais je vivrais dedans aussi longtemps qu'il m'y autoriserait. C'était l'un de ces soirs d'été où les cochons cherchaient doucement des truffes sous notre fenêtre. Il avait 13 ans. Je m'exclamais en riant « Tu as encore plus de récits en tête que ton père !» Je le vis hésiter, comme si j'étais un oiseau rare qu'il craignait d'effaroucher. Chaque fois qu'il m'avait interrogé au sujet de son père auparavant, j'avais dit « Pas encore. » « Continue, » l'encourageais-je avec un sourire. « Je vais te répondre. Il est temps. »
« Qui était-ce ? »
« Un prince qui est venu sur cette île. Il avait 1001 tours en lui. »
« À quoi ressemblait-il ? »
J'aurais cru que mes souvenirs d'Ulysse auraient le goût du sel. L'évoquer me procura toutefois du plaisir. Les cheveux et les yeux sombres, avec un peu de roux dans la barbe. Il avait de grandes mains et des jambes courtes et robustes. Il était toujours plus rapide qu'on ne s'y attendait.
« Pourquoi est-il parti ? »
Cette question ressemblait à un jeune plant de chêne, songeais-je. Une simple tige verte en surface et au-dessous, une racine pointue qui s'enfonce profondément dans la terre, pleine de ramifications. Je pris une grande inspiration. À l'époque de son départ, je ne savais pas que j'étais enceinte de toi. Il avait une épouse chez lui et aussi un fils. Mais ce n'est pas tout. Dieux et mortels ne vivent pas longtemps heureux ensemble. Il a eu raison de partir à ce moment-là. Son visage... plissé par la réflexion.
Quel âge avait-il ?
Un peu plus de 40 ans. Je le vis compter.
Alors, il n'en a même pas 60 ? Il est encore vivant ?
C'était une étrange pensée. Ulysse marchant le long des grèves d'Ithaque, respirant son air. J'avais eu si peu de temps pour rêver depuis la naissance de Télégonos. Pourtant, l'image que je me représentais me paraissait solide et saine. Je crois que oui. Il était très résistant. Dans l'âme, je veux dire. Maintenant que j'avais ouvert les vannes, il chercha à savoir tout ce dont je pouvais me souvenir à propos d'Ulysse. Sa lignée, son royaume, son épouse, son fils, les activités qu'il aimait pratiquer enfant, les honneurs qu'il avait gagnés à la guerre. Ces histoires étaient encore en moi, aussi vivantes que lorsqu'Ulysse me les avait racontées, ces milliers de conspirations et d'épreuves. Néanmoins, un phénomène bizarre se produisit quand j'entrepris de les relater à Télégonos. Je me surpris à hésiter, omettre, modifier. Avec mon fils devant moi, ces brutalités ressortaient comme jamais auparavant. Ce que j'avais jadis considéré comme des aventures me semblait désormais sanglant et laid. Ulysse lui-même me paraissait changé, insensible et non plus stoïque. Les quelques fois où je laissais l'histoire telle qu'elle, mon fils fronça les sourcils.
« Tu ne l'as pas raconté correctement, » me reprit-il. « Mon père n'aurait jamais fait une chose pareille. »«
Tu as raison, » répondais-je. « Ton père a laissé filer cet ennemi troyen au casque en peau de belette, et il est rentré dans sa famille sain et sauf. Ton père tenait toujours sa parole. » Télégonos rayonnait.
« Je savais que c'était un homme honorable. » « Raconte-moi encore ces hauts faits !»
J'élaborai donc d'autres mensonges. Ulysse me l'aurait-il reproché? Je l'ignorais, et cela m'était égal. J'aurais fait pire, bien pire, pour rendre mon fils heureux. De temps à autre, durant cette période, je me demandais ce que je dirais à Télégonos si jamais il voulait connaître mes propres histoires. Sous quel jour avantageux pourrais-je présenter à Étès, Pasiphaé, Scylla, les pourceaux? En fin de compte, je n'eus pas besoin d'essayer. Il ne posa jamais aucune question à ce sujet. Il se mit à passer de longues heures à s'isoler sur l'île. À son retour, il avait le rouge aux joues et les mots débordaient de sa bouche. Ses membres s'allongeaient. Je notai que sa voix devenait éraillée.
« Dis-moi davantage sur mon père !» insistait-il. « Où se trouve Ithaque? À quoi ressemble cet endroit? À quelle distance est-il d'ici? Et quel danger rencontre-t-on sur le chemin ?»
C'était l'automne. Je faisais bouillir des fruits dans du sirop pour l'hiver. J'aurais pu faire refleurir les arbres à ma guise, mais j'avais appris à apprécier ce processus, ces bulles dans le sucre, ces couleurs translucides de bijoux, la mise en conserve d'une bonne saison dans mes jarres.
« Mère !»
Il rentra dans la maison en criant.
« Un bateau est arrivé et il a besoin de nous. Ils sont à moitié échoués. Ils vont sombrer s'ils n'accostent pas. »
Ce n'était pas la première fois qu'il repérait des marins. Il passait souvent devant notre île. En revanche, c'était la première fois qu'il voulait les aider. Je le laissai m'entraîner jusqu'à la falaise. Effectivement, le pont était incliné et la coque prenait l'eau.
« Tu vois, peux-tu suspendre le sort juste pour cette fois? Je suis sûre qu'ils se montreront très reconnaissants. »
« Comment le saurais-tu » eus-je envie de lui demander. Les hommes qui sont le plus dans le besoin sont souvent ceux qui détestent le plus être reconnaissants et qui sont le plus susceptibles de s'attaquer à vous, juste pour se sentir de nouveau entier.
« S'il te plaît, et si c'était quelqu'un comme mon père ?»«
Il n'y a personne qui soit comme ton père. »«
Ils vont couler, mère, ils vont se noyer. On ne peut pas simplement rester là. Il faut faire quelque chose !»
Il avait l'air effondré. Ses yeux brillaient de larmes.
« S'il te plaît, mère, je ne pourrais pas supporter de les regarder mourir. »
« Juste pour cette fois. Et cette fois seulement. » Nous entendions leurs cris portés par le vent.
« Terre ! La terre !»
Ils firent bifurquer leur embarcation, qui chaloupa vers nous. J'obligeai Télégonos à promettre de rester caché jusqu'à ce qu'il remonte le sentier menant à la maison. Il devait rester dans sa chambre jusqu'à ce que le vin soit bu et repartir au moindre signe de ma part. Il fut d'accord sur tout. Il aurait accepté n'importe quoi. J'allai dans la cuisine pour préparer mon ancienne potion. J'avais l'impression d'être debout dans deux pièces en même temps. Dans la première, je mélangeais les herbes que j'avais mélangées 100 fois, mes doigts retrouvant leurs mouvements habituels. Dans l'autre, il y avait mon fils, qui ne tenait pas en place d'excitation.
D'où viennent-ils? En as-tu une idée? Sur quel rocher penses-tu qu'ils se sont échoués? Pouvons-nous les aider à réparer leur coque?
J'ignore ce que je lui répondis. On aurait dit que le sang s'était solidifié dans mes veines. J'étais en train d'essayer de me souvenir des ruses que j'utilisais autrefois pour les maîtriser. Entrez, bien sûr que je vais vous aider. Vous ne reprenez pas de vin? Même si j'y étais préparée, je sursautai en les entendant frapper. J'ouvris et ils étaient là. Dépenaillés, affamés et désespérés, comme toujours. Le capitaine ressemblait-il à un serpent prêt à frapper? Je n'aurais su le dire. Je fus prise d'un brutal accès de nausée. J'avais envie de leur claquer la porte au nez, mais il était trop tard. Ils m'avaient vue à présent, et mon fils était collé au mur, épiant nos moindres faits et gestes. Je l'avais prévenu que j'aurais peut-être besoin d'utiliser ma magie sur eux.
« Bien sûr, mère, je comprends. »
En réalité, il n'avait aucune idée de ses implications. Il n'avait jamais entendu le craquement des côtes qui se déplacent, le bruit humide de la chair déchirée qui se transforme. Ils s'assirent sur mes bancs, ils mangèrent, et le vin descendit dans leur gorge. Je surveillais le capitaine. Son regard vif parcourut la pièce, moi comprise. Il se leva.
« Madame, » dit-il, « ton nom. » Qui devons-nous honorer pour notre repas?
Je l'aurais fait sur le champ. Je les aurais arrachés à eux-mêmes.
sauf que Télégonos était déjà dans l'entrée. Il portait une cape et une épée passée à la taille. Il se tenait debout, grand et bien droit, comme un homme. Il avait 15 ans.
« Vous êtes dans la maison de la déesse Circé, fille d'Hélios et de son fils Télégonos. Nous avons vu votre bateau s'échouer et vous avons autorisé à venir sur notre île, bien qu'elle ne soit pas accessible aux mortels d'habitude. Nous serons heureux de vous aider de notre mieux tant que vous serez ici. »
Sa voix n'avait plus rien déraillé. Elle était aussi ferme que du bois sec. Il avait les yeux sombres de son père, parsemés malgré tout de paillettes jaunes. Les hommes le dévisagèrent, moi aussi. Je songeais à Ulysse, séparé de Télémaque pendant des années, et au choc qu'il avait dû ressentir en le retrouvant adulte. Le capitaine s'agenouilla.
« Ô déesse, ô grand seigneur, ce sont les parques qui ont dû nous donner la chance d'arriver ici. »
Télégonos fit signe à l'homme de se relever. Il s'installa en bout de table et servit la nourriture. Les hommes mangèrent à peine. Ils se penchaient tous vers lui comme la vigne vers le soleil, fascinés, se disputant pour lui raconter leurs histoires. Je regardais la scène en me demandant où il avait pu cacher un don pareil pendant toutes ces années. Cela dit, je n'avais moi-même pratiqué la magie que lorsque j'avais eu les plantes requises. Je le laissais se rendre sur la grève avec eux, les aider à réparer. Je ne m'inquiétais pas, ou en tout cas pas beaucoup. Le sort que j'avais jeté aux bêtes de l'île le protégerait, mais ce serait surtout son propre charme qui jouerait, car ces hommes ressemblaient bel et bien à des créatures sous le coup d'un enchantement. Télégonos avait beau être plus jeune que tous, ils acquiesçaient aux moindres mots qui sortaient de sa bouche. Il leur montra où se trouvaient les meilleurs bosquets, quels arbres abattre, leur indiqua les torrents et les coins ombragés. Ils restèrent 3 jours, durant lesquels ils réparèrent le trou dans leur coque et se nourrirent de nos réserves. Pendant leur séjour, il ne les quitta que lorsqu'ils dormaient. Ils l'appelaient « seigneur » et sollicitaient son opinion sérieusement, comme si c'était un maître charpentier de 70 ans et non un garçon qui voyait son premier navire.
« Seigneur Télégonos, monsieur, qu'en penses-tu? Est-ce que ça suffira ?»
Il étudia le raccord.
« Tout à fait, c'est du beau travail. »
Ils rayonnèrent de plaisir, et au moment du départ, ils se penchèrent par-dessus bord en criant leurs remerciements et leurs prières. Son expression resta animée, jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Ensuite, sa joie se ternit progressivement. Pendant des années, je dois avouer que j'avais espéré qu'il serait sorcier. J'avais essayé de lui enseigner mes herbes, leurs noms et leurs propriétés. J'exécutais des petits sorts en sa présence, dans l'espoir que l'un d'entre eux attire son attention. Il n'avait jamais manifesté le moindre intérêt. À présent, je comprenais pourquoi. La sorcellerie transforme le monde. Et lui voulait seulement le rejoindre. Je tentai de dire quelque chose, je ne sais plus quoi, mais il s'était déjà détourné, s'éloignant vers les bois.